Europe 1, la France bouge.
20h, 21h, Elisabeth Assayag.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue dans la France bouge sur Europe 1 au service de l'entrepreneuriat. Nous avons installé notre studio en plein cœur du stand CCI du Salon Global Industrie au Parc des Expositions à Paris-Villepinte. Et oui, vous l'avez compris, on poursuit notre grand tour avec les chambres de commerce et d'industrie. Et ce qui nous intéresse ce soir, c'est la réindustrialisation. Global Industrie, 6e édition, grande priorité nationale, cette réindustrialisation. Emmanuel Macron en avait fait de la réindustrialisation de la France un axe majeur de ces deux mandats. Alors où en sommes-nous? Quels sont les enjeux? Pour en parler, on va aller dans un secteur où la France est le seul pays, avec les États-Unis, à disposer d'une industrie. Cette industrie dont je vous parle, c'est l'aéronautique. On a choisi de l'évoquer avec une entreprise qui fait des logiciels, des jumeaux numériques, c'est-à-dire les dessins des avions. Elle les teste dans le monde virtuel. Cette entreprise, c'est Dassault Systèmes. Bonsoir David Ziegler.
Bonsoir, ravi d'être avec vous.
Mais moi aussi, je suis ravi de vous accueillir, vice-président du département industrie aéronautique et défense au sein de Dassault Systèmes. Bonsoir Clara Léger.
Bonsoir Elisabeth.
Vous allez bien?
Ça va et vous?
On est bien ici. Hein,
on est hyper bien installé.
Hyper beau ce studio, CCI, on doit le dire. Clara Léger, les femmes dans l'industrie aéronautique trouvent petit à petit leur place.
Oui, ça avance doucement. Elles représentent 24% des emplois de sa filière aéronautique et le chiffre augmente chaque année.
Mais c'est doucement quand même.
Doucement.
Vous allez nous dire pourquoi tout à l'heure. Vers 20h50. Bonsoir Ousmane Seck.
Bonsoir Elisabeth.
Vous allez bien? Mais nous aussi, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes la start-up en quelque sorte de ce soir. Enfin, une start-up qui existe quand même depuis 2016, c'est ça?
C'est un peu vieux pour une start-up.
Ouais, mais tout de même, ça reste une start-up dans ce que vous faites. Vous, vous concevez des capteurs connectés ainsi que des algorithmes pour prédire les éventuels problèmes, notamment dans l'aéronautique. Votre start-up, votre entreprise s'appelle Monixo.
C'est ça.
Ça veut dire quoi, Monixo?
Monixo, c'est le nom de la start-up.
Mais pourquoi?
Elle nous est venue un peu comme ça.
Comme ça, donc, c'était voilà. Au Scrabble. Allez, on va faire Monixo.
À peu près, c'est ça.
Bienvenue dans la France Bouge. Saurez-vous convaincre ce soir un coach exceptionnel dans cette France Bouge ici à Global Industrie? Nous avons la choix de vous retrouver, lundi Crescenzo. Bonsoir.
Bonsoir.
Président de CCI France, ça va Alain?
Ça va super bien.
On est content de vous retrouver. Oui. Vous, ça fait 3 jours que vous êtes ici. Hein.
Oui, moi je vis ici. Moi,
vous buvez quoi, l'industrie?
Je la bois, je l'apprécie, je l'aime.
Oui, vous l'aimez. Surtout que c'est majeur et vous le prouvez chaque jour dans vos actions au sein des chambres de commerce.
Oui, c'est une des 6 grandes priorités des chambres de commerce parce que c'est une des grandes priorités de la France, vous l'avez dit, par rapport au discours et aux actions d'Emmanuel Macron. Bah, écoutez, après avoir dégringolé, détruit industriellement pendant 50 ans, ce qui a été une catastrophe pour notre pays, on a perdu 2 millions d'emplois, on a perdu 10% de notre PIB, on a perdu notre balance du commerce extérieur. On a une recovery, un renouveau important, puisque l'an dernier, 40% des emplois dans ce pays étaient des emplois industriels, puisqu'il y a 2500 start-up actuellement dans le monde de l'industrie.
Ça va peut-être venir du côté des start-up, hein, ce renouveau.
C'est pour ça que je le regarde, qui ont levé à peu près 3 ou 4 milliards d'euros l'an dernier. Et puis surtout, il y a une grande dynamique sur l'industrie du futur, ouais. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui.
Et on le voit ici dans les allées du Salon Global Industrie, hein, l'IA est partout, les robots sont partout. On va en parler, l'industrie de notre pays, c'est majeur. On va en parler pendant toute cette France bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h et c'est l'émission des Audacieux sur Europe 1.
Europe 1, l'invité de la France bouge.
L'invité de la France Bouge ce soir, c'est vous, David Ziegler, l'un des invités. Vous êtes le vice-président du département industrie aéronautique et défense de Dassault Systèmes. Ce soir, oui, l'industrie fait sa vitrine. Ben, les agriculteurs ont leur salon. Donc maintenant, les industries ont leur salon. Ça s'appelle Global Industrie. Si nous n'avons pas d'industrie, si nous ne réindustrialisons pas le pays, nous ne pourrons pas redevenir une grande nation d'innovation et de recherche. Ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux d'Emmanuel Macron. La réindustrialisation de notre pays est en route. Alors comment trouver les compétences? Les voyants sont au vert, on fonce et on en parle ce soir dans la France Bouge sur Europe 1. Et donc on va s'intéresser à un secteur de cette industrie, l'industrie aéronautique. La filière aéronautique, ça comprend l'ensemble de toutes ces entreprises au sein du territoire français. Ça part de la conception, de la production, de la maintenance, des matériels aéronautiques. Dedans, il y a les avions, il y a les hélicoptères, les drones, les dirigeables, aussi bien civils que militaires. Et donc, on va démarrer avec vous, David Ziegler. Vous êtes donc Dassault Systèmes. Avant d'entrer dans le détail, de comprendre ce qui se passe, de comprendre comment on est en train de réindustrialiser petit à petit notre pays, vous allez pitcher. On va tenter pendant une minute. Je sais que ce n'est pas évident, surtout pour ce que vous faites, mais on va tenter tout de même. Dassault Systèmes et votre fonction, c'est quoi? Vous avez une minute, David Ziegler, on vous écoute.
Alors, Dassault Systèmes, c'est le champion français des logiciels, le leader mondial des logiciels. On est plus de 22 000 collaborateurs dans le monde, dans 130 pays dans le monde. On est présent dans trois secteurs, le secteur manufacturier, le secteur des sciences de la vie, le secteur également de tout ce qui est infrastructure. Et ce qu'on fait pour nos 300 000 clients, c'est qu'on les aide à innover, à imaginer, à développer leurs produits dans des univers virtuels. Et aujourd'hui, pour l'aéronautique, si ça vole, c'est parce que ça a été dessiné, fabriqué ou simulé avec les logiciels de Dassault Systèmes.
Voilà, c'est clair, en moins d'une minute, c'est balèze quand même, en moins d'une minute, Clara.
Hyper clair, hyper précis, parfait.
On a tout, en tout cas, moi j'ai compris. J'ai compris une partie de ce que vous faites. Si je comprends bien, vous travaillez pour des gros clients, pour tout ce qui vole.
Exactement. Donc aujourd'hui, dans nos clients, on a par exemple Airbus, Dassault Aviation, qui est une compagnie sœur, on a le même actionnaire, mais nous ne sommes pas Dassault Aviation. On a également Boeing, Comac et tout ce qui vole, Embraer, etc. Donc les avions, les drones, les avions militaires, les dirigeables, les hélicoptères sont fabriqués avec nos logiciels, on en est très fiers.
Donc comment ça se passe? Vous avez un client qui vient vous voir, avant tout avion, tout hélicoptère, tout drone que l'on voit, vous, avant, il y a comme une espèce de dans les, vous êtes les coulisses de la préparation de la mise en place de l'avion, par exemple, si on prend l'exemple de l'avion, vous avez un logiciel et donc vous faites vous modélisez tout en mode numérique, en mode virtuel.
Exactement. L'art de voler, c'est un rêve d'enfant d'abord. Et ça part d'une imagination. Donc on imagine un dessin d'avion. Il faut savoir dessiner une aile. Marcel Dassault expliquait à l'époque que le dessin d'une aile était extrêmement porteur et qu'on voyait à travers le dessin si cet avion allait être performant. Donc on commence à imaginer un concept d'un avion dans un univers virtuel, ce qu'on appelle l'ingénierie des systèmes, parce que ces avions sont de plus en plus complexes. C'est des avions qui sont connectés, qui collaborent avec d'autres avions, bien souvent. Et ensuite, petit à petit, on va aller jusqu'au design des pièces détachées, des moteurs, de tous les sous-systèmes qu'on peut imaginer dans un monde numérique.
Comment ça se fait qu'on passe par le monde numérique? Ça fait partie de la réindustrialisation de l'aéronautique?
Ah, tout à fait, c'est un des grands enjeux, justement, c'est la digitalisation de ce nouveau monde et de la nouvelle industrie, ce qu'on appelle
la renaissance
de l'industrie.
Voilà.
Exactement.
Renaissance de cette industrie aéronautique, parce que finalement, vous êtes celui qui faisait les petits croquis, les petits schémas sur un coin de table au crayon à papier il y a encore 60 ans. Vous, grâce à vos logiciels, on peut entrer dans les moindres détails, donc ça signifie qu'on ne peut rien oublier, ou on peut même penser à des choses auxquelles on n'avait jamais pensé.
Alors ça permet tout simplement aujourd'hui d'assembler les avions. La première chose, c'était la table à papier. Et on est passé de la table à dessin, finalement, d'une maquette numérique de l'avion et qui permet de voir les différents assemblages de pièces, de respecter les tolérances des différentes pièces. Mais plus que ça, le jumeau numérique aujourd'hui, c'est bien plus que de l'assemblage de pièces. C'est finalement la simulation de tous les systèmes. Donc on va vérifier en avance de phase que l'aile, par exemple, tient bien les déformations associées au vol et vérifier que l'avion est bien dessiné selon la conformité et selon la certification demandée par les agences de certification.
Alain Di Crescenzo, vous êtes le président de CCI France. Est-ce que là, nous sommes bien au cœur de cette réindustrialisation aéronautique quand on entend parler David Ziegler?
Alors, oui, et puis d'ailleurs, je salue parce que dans le parcours professionnel que j'ai fait, j'ai au moins travaillé une vingtaine d'années en partenariat avec Dassault Systèmes.
Ah, donc là vous retrouvez.
Je retrouve des mots et des clients que je connais bien, et notamment des clients aéronautiques. Les gros enjeux de la réindustrialisation, il y en a deux grands. Il y a la digitalisation, et donc David en a très bien parlé. Digitalisation, ça ne veut pas dire uniquement faire des plans en 3D, mais c'est simuler, et surtout tout au long du cycle de vie. Donc de l'objet, de l'avion, on va avoir son jumeau numérique qui va le suivre pour le maintenir, pour faire en sorte que ce soit toujours au bon niveau pour des questions de sécurité, de performance, etc. Et le deuxième sujet aujourd'hui de majeur pour faire en sorte qu'on se réindustrialise, c'est, je l'ai toujours dit, l'industrie sera verte ou ne sera pas. Donc les deux grandes mamelles, je dirais, de l'industrie d'aujourd'hui et de demain, c'est digitalisation d'un côté et d'autre côté, verdissement, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait une empreinte carbone minimale et minimisée aujourd'hui et dans le futur.
Donc là, on va rester, si vous le voulez bien, sur la digitalisation avec vous. David Ziegler, donc vous êtes Dassault Systèmes. Vous êtes en train donc de créer les logiciels. Ça veut dire que tous les projets démarrent d'abord chez vous. Il n'y a pas de projet sans vous.
On peut dire ça, mais...
Non, mais c'est vrai.
Il faut quand même laisser, effectivement, à nos clients cette imagination.
Ils viennent avec un cahier des charges, avec leur imagination, ils viennent vous voir comme ça ?
Et avec leurs ingénieurs, et avec leurs travailleurs. Ouais. Finalement, l'assemblage, nous ne faisons ni l'assemblage des avions, ni le dessin des avions. Nous donnons les logiciels qui permettent aux innovateurs, justement, de développer leurs produits.
Oui, mais c'est du sur-mesure, quasiment.
C'est quasiment du sur-mesure, mais on essaye de développer nos logiciels... essentiellement avec les plus grands donneurs d'ordre, donc Airbus, Boeing, pour répondre, et Dassault Aviation, pour répondre à leurs exigences. Et c'est un logiciel ensuite qu'on met à disposition de toutes les startups. Et aujourd'hui, ce qu'on voit et qui est très intéressant dans cette question de réindustrialisation, c'est un défi, effectivement, Alain, tu en as parlé, un défi vert.
Mais c'est ça. Et là, on passe à cet aspect du verdissement de l'aéronautique. C'est l'un de vos enjeux aussi chez Dassault Systèmes.
Complètement. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plus de 300 projets de nouveaux avions qui sont lancés sur ce qu'on appelle les avions électriques à décollage vertical. C'est une nouvelle industrie qui se crée, c'est énormément de start-up et on est très fiers justement chez Dassault Systèmes de les accompagner parce qu'aujourd'hui, nos logiciels qui peuvent être parfois complexes sont disponibles sur le cloud et permettent à ces start-up, où qu'ils soient, de travailler en équipe, de collaborer et justement d'aller de plus en plus vite dans le développement de leurs avions. C'est vraiment pour nous le renouveau de l'industrie, ce qu'on appelle des innovators, des shakers, qui inventent ce monde de demain, qui inventent l'avion électrique, qui inventent l'avion à hydrogène. Et on a plein de startups dans le monde.
Donc vous travaillez avec des startups, vous planchez par exemple sur des modèles de systèmes avec avions électriques, des avions à hydrogène. Vous en êtes où là est-ce que ça correspond à une grande partie de votre travail aujourd'hui, voire une plus grande partie que la digitalisation?
Alors aujourd'hui, les prochains avions électriques, les premiers avions électriques seront certifiés à horizon 2024-2025. Donc en termes aéronautiques,
on parle de demain.
On commence à voir les premiers projets d'avions à hydrogène. Là, je veux rendre hommage à plusieurs startups comme Blue Spirit Aero qui développe un petit avion léger à hydrogène, mais également nos grands clients s'y mettent, comme Airbus qui prépare l'avion du futur à hydrogène.
Les grands, les géants, les constructeurs qu'on connaît tous, eux aussi, ils ont besoin des startups aujourd'hui pour pouvoir se mettre à la page.
Exactement, c'est une combinaison en fait d'innovation entre des très grands groupes qui vont avoir un horizon industriel peut-être à 2030, 2035 pour l'avion à hydrogène du futur, mais plein de start-up qui vont développer ces technologies, les maturer, les innover dans ce domaine-là avec une feuille de route à 2 ans ou 3 ans.
Ça fait du bien d'entendre tout ça, hein. Alain Di Crescenzo, vous êtes le président de CCI France, on est là, Global Industrie, c'est notre partenariat avec les CCI. Tout ça, ça se passe en France. Nous, on se situe comment par rapport à nos voisins européens? Est-ce qu'on peut dire qu'on a rattrapé peut-être un retard ou au contraire, nous sommes en avance, Alain Di Crescenzo?
Écoutez, je vais vous parler de fierté alors, puisque si on parle de l'aéronautique, aujourd'hui, le numéro 1 mondial, il est français, il s'appelle Airbus. Alors, c'est bien sûr un consortium européen, vous le savez, mais le siège est en France, il est à Toulouse, pas très loin d'où j'habite d'ailleurs. D'ailleurs, je vois bien décoller les avions de chez moi. Donc voilà, donc c'est la grande fierté, c'est ça. Mais je voudrais revenir sur l'écosystème, tu en as parlé, de tout ce qui se met en place au niveau de l'avion électrique, de l'avion plus vert. Tu as parlé de l'avion hydrogène, moi je vais parler de l'avion électrique. On a des entreprises comme Aura Aero, que je connais bien, donc qui font voler des avions donc électriques. Donc ça veut dire que, alors il y a différentes tailles d'avions, vous l'imaginez, donc ce qui est vrai pour un petit avion est moins vrai pour un moyen et un grand avion, un gros porteur. Mais aujourd'hui, si vous voulez, l'aéronautique a un objectif et nous allons le tenir. J'étais encore avec Airbus ce matin, c'est le net zéro à 2050. Ça veut dire qu'à 2050, l'objectif en termes de verdissement, c'est que sur ce qu'on appelle les scopes 1, 2, 3, c'est-à-dire le constructeur, les compagnies, les infrastructures, on soit à zéro en termes de...
Donc la neutralité carbone.
100% en 2050. Alors ça passe par quoi? Vous l'avez dit. Ça passe par l'avion électrique dont on a parlé, l'avion à hydrogène. Ça passe avec des avions qui vont consommer beaucoup moins, faire beaucoup moins de bruit. Mais je ne voudrais pas qu'on enterre ce qu'on appelle les SAF, les carburants d'aviation durables. Voilà. Et ça, c'est très important, puisque globalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on arrive à faire des carburants et les moteurs, aujourd'hui, sont optimisés pour fonctionner très rapidement avec ces carburants. D'ailleurs, il y a des avions qui volent aujourd'hui avec ces carburants.
Et il y a des start-up françaises qui travaillent sur ces carburants.
Et donc, rappelez-vous que dans ce type de carburant, pour 50%, c'est du kérosène, donc traditionnel, et 50%, ce sont des carburants dits verts, notamment produits à base d'hydrogène. D'accord ? Et là-dessus, si vous voulez, il y a aussi une grande espérance, donc en termes de verdissement de nos avions. Et pour finir, même si on vise le net zéro, n'oubliez jamais la chose suivante. Et je ne vais pas faire le grand défenseur de l'aéronautique, même si
on est là
je
pour
suis admiratif
ce quand même,
et fier
hein.
de
on parle
ce
de
qui se passe.
Cette belle filière.
N'oubliez pas que les émissions, en termes de CO2 des avions, quand je prends tout confondu, c'est 1 à 2% des émissions. Et ce que je dis toujours, c'est que le petit outil qui est sur la table et que je montre maintenant...
Il nous montre un téléphone portable.
Celui-là, c'est plus de 5%. Voilà. Donc, il y a toute une mouvance aujourd'hui de verdissement dans les technos, bien sûr, et qui est mis en place par un écosystème complet qui va du centre de recherche jusqu'au grand compte industriel.
David Ziegler, vous êtes le vice-président du département industrie, aéronautique et défense au sein d'Assosystème. Vous êtes ce soir avec nous sur Europe 1 depuis Global Industrie. Vous ne vous occupez pas du tout des carburants verts. Vous n'êtes pas là-dedans dans les logiciels, les jumeaux numériques.
Alors si, justement.
Ah, mais comment ?
Parce que, effectivement, c'est une partie de la solution. Là, on l'a très bien montré. C'est non seulement l'avion électrique, non seulement l'hydrogène, mais les SAF qui feront partie de la solution.
Le
et pour faire les SAF, ces carburants verts, il va falloir développer tout un écosystème.
Lequel ?
Il va falloir amener ces SAF, il va falloir travailler sur ces carburants, les produire, les amener jusqu'au lieu de production, jusqu'à l'aéroport et planifier finalement toute cette chaîne de production.
Et en quoi Dassosystème intervient là-dedans ? Comment ?
Et aujourd'hui, non seulement nous faisons le jumeau numérique des produits, mais nous faisons également le jumeau numérique des chaînes d'approvisionnement.
Les fameuses supply chain.
Exactement.
D'accord. Donc toute cette logistique aussi, ça fait partie des solutions que vous proposez chez Dassosystème auprès de vos gros clients, donc les gros constructeurs que nous connaissons tous.
Exactement. On fait non seulement le jumeau numérique du produit, mais pour produire ces SAF, il faut produire une usine. Et cette usine, elle s'imagine avant d'être conçue. Et c'est là où on fait le jumeau numérique de l'usine qui permet de la construire, de la tester et de s'assurer que le procédé de l'usine aura le résultat attendu quand l'usine sera commissionnée.
Donc une filière pleinement engagée dans cette décarbonation. Pour mener tout cela à bien, donc on a vu qu'il y avait des solutions, mais il faut aussi des talents. David Ziegler, comment faites-vous pour les trouver, pour les recruter, les talents, par exemple, chez Dassosystème ? Vous êtes combien chez Dassosystème ?
Nous sommes 22 000, on est présent dans 130 pays et aujourd'hui, on n'a absolument aucun problème pour recruter.
Alors, c'est bien la première fois que j'entends ça depuis très longtemps.
Très, très bien positionné sur le domaine du numérique qui représente un métier d'avenir. Par contre, pour nos clients de l'aéronautique et de la défense et pour les industriels, c'est vrai qu'il y a une certaine désappointance de certains jeunes pour l'industrie, alors que c'est un univers absolument incroyable.
Et c'est pour ça que nous sommes ici ce soir avec Europe 1 et les CCI à Global Industrie pour montrer que on n'est plus, l'industrie aujourd'hui, c'est plus le temps de Zola. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on recrute et on recrute avec des très bons niveaux de formation.
Exactement. Et finalement, les ouvriers d'hier, grâce à la digitalisation, sont devenus des techniciens. Les techniciens d'hier sont devenus des ingénieurs et les ingénieurs d'hier sont devenus des innovateurs. Toute cette technologie digitale permet vraiment d'imaginer des solutions en rupture et d'accélérer l'innovation.
Alors, c'est qui aujourd'hui vos talents ? Ils ont des profils que d'ingénieurs ?
Alors, on recrute beaucoup d'ingénieurs, mais pas que. Beaucoup de commerciaux également pour nous aider à raconter et à pousser cet agenda digital.
Clara Léger, l'industrie de manière globale, elle recrute beaucoup en ce moment, même en France.
Ouais, plus de
30...
Si on sort de l'aéronautique et qu'on parle de l'industrie en général, plus de 30 000 emplois industriels se créent par an depuis 2017 et le recrutement se fait vraiment partout en France pour toutes les qualifications, tous les profils. Ça va du CAP jusqu'au Bac plus 5, du métier de technicien à celui d'ingénieur, les profils déjà formés et même les profils en voie de reconversion professionnelle. Le plus grand besoin de recrutement, c'est notamment dans le secteur de la transition énergétique.
Mais oui, c'est ça. Alain Di Crescenzo, vous êtes le président de CCI France. Ces talents, bon, alors du côté de Dassosystème, il y a zéro problème pour recruter, mais tout de même, vous êtes une sorte de vigie au sein de CCI France pour tous ces besoins de talents, de compétences, de formation. On en est où en France dans cette réindustrialisation aéronautique au niveau des recrutements ?
Alors vous savez que nous faisons des enquêtes tous les mois, et puis l'enquête du mois, Global Industrie, c'est une enquête autour aussi des compétences. Et ce qu'on a questionné nos entreprises, c'est savoir quel est le premier frein que vous avez à la réindustrialisation. À investir dans l'industrie, 55% des compétences.
Voilà.
Ça veut dire qu'en dehors de boîtes internationales comme Dassault Systèmes, extrêmement bien établies, numéro un sur leur domaine, bon, c'est difficile de recruter. Alors pourquoi c'est difficile de recruter? Parce qu'on ne produit pas assez de techniciens. Aujourd'hui,
donc on ne les forme pas assez.
On n'en forme pas assez chaque année. Si je prends les ingénieurs, aujourd'hui, le système français en produit 40 000, il en faut 50 ou 60 000. Donc on a une carence entre 10 et 20 000 ingénieurs chaque année. Si je regarde aujourd'hui les techniciens, c'est à peu près la même chose. Alors pourquoi on n'en produit pas assez? On a deux éléments, et ça se mord un peu la queue globalement. C'est qu'il y a peu d'attractivité, les métiers industriels sont moins attractifs.
Mais pourquoi? Parce que justement, on le voit ici à Global Industries, c'est des métiers extraordinaires.
Vous l'avez dit, parce qu'il faut le voir.
Ouais.
Et donc il faut le faire savoir. C'est qu'on imagine toujours, non pas Zola, ça s'appelle les temps modernes, d'accord? L'industrie, c'est sale, ça fait du bruit, etc.
C'est pénible.
Alors que l'industrie, vous avez vu, il y a des robots partout.
Il y a des robots partout. On arpente les allées du salon Global Industries, il y a des robots partout.
Et qui plus est, si vous voulez...
Et de l'IA partout.
Hyper digitalisé, voilà. C'est ça l'industrie d'aujourd'hui. Et le premier challenge que nous avons au niveau national, et c'est sans doute ce qu'on pourrait dire un plan Marshall, c'est dire la vérité sur ce que sont les marchés de l'industrie pour attirer. Et une fois qu'on attire, bien sûr, il faut la promesse. La promesse, répondre à la promesse, ça veut dire développer des postes, développer des formations. Si je prends les chambres de commerce, on a formé en 2023 4000 ingénieurs, parce qu'on a aussi des écoles d'ingénieurs, et 25 000 techniciens dans le domaine technique. Ce n'est pas suffisant. J'ai signé une convention avec EDF hier, et donc EDF a besoin de 20 000 personnes par an sur les prochaines années. Et donc ce qu'on va faire, nous, c'est créer des titres, faire en sorte de faire de la formation continue. On forme 250 000 personnes au niveau des chambres de commerce en convention continue. On va accélérer ces formations, créer des titres, créer des formations.
Et où vous allez les chercher? Parce qu'on n'est pas forcément au courant. Quand on est jeune, qu'on a 18, 20 ans, on ne sait pas forcément que les chambres de commerce ont des écoles d'ingénieurs.
Je vais vous embaucher.
Non.
Je vais vous embaucher. Alors où est-ce qu'on va les chercher? On va les chercher tous les jours. On a des points d'apprentissage, des points d'information. Et simplement, on a une superbe opération. C'est pour ça que je vais vous embaucher. Et donc, qui se déroule entre le mois de novembre et le mois de décembre. C'est le mois de la découverte des métiers. Il y a plus de 100 métiers qui sont présentés. Et nous avons
on a fait avec les CCI
2023.
À Tours, on avait
on l'a
fait cette année.
Vous l'avez fait aussi. Et on a recruté cette année, on a fait venir cette année en tant que jeunes. Plus de 100 000 jeunes sont venus nous voir.
Alors, c'est quoi les mots-clés pour donner envie à un jeune de venir travailler dans l'industrie?
C'est responsable,
ouais.
C'est digital, c'est bien payé. Et donc, c'est tout de suite.
C'est pour ça que chez Dassault Systèmes, David Ziegler, vous n'avez pas de problème de recrutement parce que ça paye très bien?
Alors, on risque de me taper sur les doigts,
mais allez-y, ressources
humaines, si
nous.
Je dis que ça paye très bien, mais c'est surtout...
Non, mais c'est attractif. Si vous êtes le premier en 6 mois à me dire qu'on n'a aucun problème de recrutement.
C'est surtout très attractif grâce à l'innovation qu'on peut apporter à nos clients. Le digital permet vraiment, et c'est ce qui tient à cœur à l'ensemble des ingénieurs, c'est vraiment d'inventer le monde de demain. Et on voit aujourd'hui, le digital permet de répandre cette technologie à une vitesse absolument incroyable. Aujourd'hui, une entreprise de 10 personnes, une start-up de 10 à 15 personnes peut déjà commencer à fabriquer des produits au bout de quelques mois. Quelque chose qui était complètement inimaginable avant.
Il y a encore 3 ans, c'était inimaginable. 3-5 ans.
Exactement. Ouais. Et en plus, on voit aujourd'hui, grâce, vous en avez parlé, à l'intelligence artificielle, qu'il y a une accélération de cette digitalisation et de ce développement et de cette facilité de développer des produits.
Donc c'est pour ça que vous voulez attirer sans problème.
Exactement.
Alors est-ce que dans tout ça, il n'y a pas aussi cette notion qu'on voit, nous, régulièrement dans la France Bouge, tous ces jeunes talents viennent aussi parce qu'il y a un sens. Vous l'avez dit, on fait avancer le monde. Là, vous vous planchez sur les carburants verts, les avions décarbonés, etc. Est-ce que la petite cerise, j'ai envie de dire, sur le gâteau, c'est qu'en plus de ça, il y a un impact dans leur métier?
Bien sûr, nous on pense que sur ces enjeux de développement durable, l'industrie n'est pas le problème, l'industrie est la solution. Et justement, Alain en a parlé, la solution industrielle pour l'aéronautique, c'est de développer les avions plus verts, c'est de développer les nouveaux carburants. Et
ça
faire
aussi,
partie de cette solution, c'est admirable.
Et bien ça, Alain DiCrescenzo, c'est aussi une façon d'attirer les talents.
Ce que j'ai dit en premier, c'est dire que l'industrie, c'est responsable.
Et c'est hype.
C'est
cool.
Il y a un talent particulier chez Elisabeth, oui, que je voudrais attirer, et ça a été introduit, c'est les femmes.
C'est les femmes. On va en parler des femmes avec vous, Clara Léger.
Il n'y en a que 25% aujourd'hui dans l'industrie, c'est pas suffisant.
C'est pas suffisant, ça avance lentement, mais ça avance. Vous restez autour de la table de la France Bouge ce soir sur Europe 1. Villepinte est transformée en plus grande usine de France. Nous sommes à Global Industrie. On a évoqué l'aéronautique. On va maintenant découvrir une start-up qui permet de prédire les pannes d'avions.
Europe 1, la France Bouge.
La pépite.
La France bouge, si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 21h sur Europe 1. Ce soir, émission spéciale avec les chambres de commerce et d'industrie depuis le salon Global Industrie au parc des expositions à Villepinte. Ici, c'est simple, je le redis, hein, il y a de l'intelligence artificielle dans tous les couloirs, des robots, une France bouge tournée vers cette réindustrialisation de notre pays, plus précisément dans le domaine de l'aéronautique. On va continuer à en parler avec vous, David Ziegler, vice-président du département industrie aéronautique et défense de Dassault Systèmes, et on va poursuivre avec une pépite française. On va rester dans cet univers de l'aéronautique avec cette solution pour prédire notamment les pannes d'avions. Avec vous, Ousmane Seck, vous êtes le cofondateur de Monixo, c'est bien cela ? Vous avez 34 ans. On va revenir un petit peu, si vous voulez bien, sur votre parcours, parce que derrière tout entrepreneur, il y a des parcours de vie, il y a des êtres humains. Vous avez eu votre bac à Dakar, dont vous êtes originaire. Et en 2007, vous êtes arrivé en France, à Toulouse.
C'est ça.
C'était précis, Toulouse ? C'était l'objectif de départ ou c'est par hasard ?
C'est un hasard.
C'était un hasard.
La ville de l'aéronautique, mais c'est un hasard.
C'est bien tombé, c'était un bon hasard. Vous avez intégré la prestigieuse école toulousaine l'INSA.
L'INSA.
Et vous ressortez de l'école, vous partez, vous allez aux États-Unis, à Philadelphie, faire une année de spécialisation. Moi, je trouve que c'était très précurseur parce qu'on est, en quelle année là ?
2012.
2012, et vous faites un cursus sur le thème de l'intelligence artificielle. Donc il y a un peu plus de 10 ans, il y a 12 ans. Comment vous avez pensé ? Pourquoi être allé vers cela en 2012 ? Vous dire là, je vais aller aux États-Unis travailler sur l'IA ?
Parce que plus ou moins, on en parlait déjà énormément l'IA en 2012. Peut-être qu'il y avait des projets.
Chez les ingénieurs, hein, parce que.
C'était moins concret, on va
pas
dire.
Pas à la maison.
Il n'y avait pas ChatGPT, etc. C'était moins concret. Mais en gros, c'était déjà dans les tuyaux. Donc j'ai choisi de me spécialiser là-dedans parce que bon. À terme, j'avais un projet qui ne ressemblait pas exactement à Monixo.
Comment vous avez fait pour avoir un projet de manière aussi précoce ? C'est-à-dire que parfois, quand on fait une école d'ingénieur, on ne se dit pas qu'on a un projet clé. Il vous est venu comment ? Ça vous inspirait comment ?
Peut-être par le type d'école d'ingénieur que j'ai eu à faire. L'INSA, c'est l'Institut National des Sciences Appliquées. Donc, on est très appliqué au final. Et cette capacité-là, finalement, à se projeter vers l'industrie, est un véritable avantage au sein de la formation. Donc on était déjà
baigné dedans.
Exactement.
Donc vous allez à Seattle travailler chez un sous-traitant de Boeing.
C'est ça.
Et là-bas, vous avez vu comment on pouvait appliquer cette fameuse intelligence artificielle sur les systèmes embarqués.
Exactement.
C'est là où il y a le déclic.
Voilà, c'est ça.
Retour à Toulouse. Retour je raconte votre Toulouse, vie, hein, mais au moins on vous connaît. Vous travaillez à Toulouse dans le secteur des télécoms pendant un an, mais vous démissionnez.
Exactement.
Pourquoi ?
Pour créer Monixo.
Et voilà, donc c'était, vous en aviez envie depuis le début de monter votre entreprise.
Exactement. Il y avait cette envie-là et aussi il y avait l'opportunité parce qu'on était dans une... les entreprises, les industriels commençaient à parler d'usine 4.0. Donc c'était des projets qui étaient un peu dans les tuyaux. Et puis bon, c'était l'occasion faisant un peu le larron, je suis un peu lancé, c'est ça.
En plus, bon, là ce soir on parle industrialisation de l'aéronautique puisque nous sommes de la Global Industrie, mais à l'origine, Ousmane, ce n'est pas le milieu de l'aéronautique qui vous encourageait à ce que l'entreprise prenne forme. Je crois que vous étiez un appel à projet d'un projet d'EDF ou RDF.
C'est ça, ERDF qui est devenu Enedis aujourd'hui.
Ouais.
Donc c'était un appel à projet national auquel on a postulé et on a remporté finalement l'appel à projet. Donc notre premier projet, c'était la fiabilisation d'un transformateur haute tension qui n'a rien à voir avec l'aéronautique.
Ouais, non.
Donc voilà.
Mais comme quoi, il y a des passerelles. Hein.
Exactement, les passerelles sont venues un peu avec le temps.
Ouais.
Voilà.
Donc voilà, vous variez les secteurs d'activité, Enedis, vous avez eu PSA et l'aéronautique. C'est ce qui nous intéresse ce soir à Global Industrie, parce que vous êtes, on est là à Global Industrie pour parler de cette réindustrialisation de l'aéronautique. Vous êtes sur Europe 1. Monixo naît, donc on est en 2016.
C'est ça.
Et bien c'est quoi Monixo ? Vous aussi, vous allez pitcher en une minute. Est-ce que vous êtes prêt, Ousmane ?
J'y vais.
Allez, top chrono, on vous écoute, c'est parti.
Bon, Monixo, la vocation de Monixo, c'est de faire parler les machines, leur permettre d'exprimer une usure, une fatigue ou tout écart lié à leur fonctionnement. Notre métier peut se résumer en trois mots, connecter, analyser, prédire. Connecter via des objets connectés, qui sont des dispositifs électroniques qu'on conçoit. Analyser à travers l'IA et des modèles physiques, et aussi prédire les défaillances sur des équipements critiques. Aujourd'hui, à l'heure de l'IA, l'intelligence artificielle générative, notre métier se transforme aussi. L'objectif, c'est plus uniquement de faire de la prédiction, mais aussi de la recommandation d'optimisation auprès des techniciens, leur dire ce qu'il faut faire pour booster leur production et avoir leur machine fonctionnelle le plus longtemps possible. Voilà notre métier.
Waouh, merci, moins d'une minute. Hein. Je les vois admiratifs, Alain Di Crescenzo et David Ziegler. Première réaction, Alain Di Crescenzo, président de CCI France sur Europe 1.
Je crois que cette vocation d'entrepreneur, il avait depuis longtemps.
Et toujours, on a l'impression.
Bah, très heureux.
Hyper déterminé.
Hein. Au bout, hyper déterminé. Il fait partie des 1 million de créateurs d'entreprises par an dans ce pays. On est une creation ou startup nation. On l'est comme
ça. Il faut le dire. Hein, parce
voilà. Et surtout, continuons, parce que ça fait partie de la grande dynamique d'entreprise. Après, tu es un précurseur, parce que tu es créé aussi dans l'industrie. Et ça, c'était moins connu, quand même. Hein, ouais. Puisque même si tu es très digitalisé, tu es dans le domaine de l'industrie, tu fais partie donc des 2 500 startups aujourd'hui qui montent dans ce beau métier de l'industrie. Et puis après, il y a les mots magiques.
Alors, c'est quoi les mots magiques pour vous, Alain Di Crescenzo, ce soir ?
C'est les mots qui définissent ce qu'est l'industrie. Alors, il a parlé de capteurs. Il aurait pu dire l'Internet des objets. Tu aurais pu dire ça, d'accord ? Et puis après, on va les relier avec...
Le capteur, c'est un mot hyper industrie.
C'est de l'industrie des capteurs.
On va venir
capter.
Note,
on capte les vibrations, venir capter la qualité des fluides, etc., si j'ai bien compris le pitch tout à l'heure. Et puis après, il va venir analyser tout ça. Et l'outil d'analyse aujourd'hui, l'outil qui va faire les grandes ruptures technologiques, c'est l'IA. Donc voilà, de l'industrie, des capteurs, ça veut dire des objets connectés, et ensuite de l'IA. Je crois que c'est ce qui montre qu'il y a un renouveau de l'industrie et qui fait que quelque part, quand on l'explique comme tu l'as expliqué avec le succès que tu as, ça va attirer des jeunes et des moins jeunes talents.
Grande fierté aussi. David Ziegler, je vous voyais sourire tout à l'heure en écoutant très attentivement Ousmane Seck. Je rappelle que vous êtes le vice-président du département industrie aéronautique et défense de Dassault Systèmes ce soir sur Europe 1. Votre réaction et votre regard sur Monixo?
Alors moi, j'ai souri pour deux raisons. La première, c'est que je suis très fier de voir des gens qui font l'INSA. J'ai fait le super-héros juste à côté, et l'INSA est aujourd'hui la plus grande école d'ingénieurs en France demandée après le bac.
L'INSA. Ah, mais déjà, ça sur Europe 1, c'est important de le dire. Moi, je ne la connaissais pas. L'INSA, c'est si on a envie de travailler dans l'aéronautique, on fait l'INSA.
Exactement. En fait, c'est l'école d'ingénieurs qui l'a plus demandé après le bac et qui est la plus difficile d'avoir après le bac. Donc, je suis fier de voir que...
Bravo, Ousmane. Ça a été difficile pour intégrer l'INSA ?
Oui, plus ou moins.
Il est humble en plus, il est hyper modeste. Donc bon.
Et la deuxième chose pour laquelle je souriais, c'est que c'est vraiment au-delà de l'intelligence artificielle, il y a vraiment cette inscription sur l'efficacité des machines qui est forcément un objectif économique, mais au-delà de ça, un objectif de développement durable. Plus on utilise les machines de manière efficace, les avions par exemple, plus on les fait voler, moins on a besoin d'utiliser de la nouvelle matière pour créer de nouveaux avions, etc. Et donc, la mise à disposition de temps de vol pour les avions, c'est aussi un grand enjeu de développement durable.
Donc, il réunit toutes les besoins, les enjeux du moment dans cette réindustrialisation.
Exactement. Et puis, en regardant un peu ce que fait Monixo, je pense qu'il y a des enjeux également dans tout ce qui est capteur sur la fiabilité des structures en composite, en fluidique, qui sont des éléments essentiels des avions, puisque les avions aujourd'hui, de plus en plus, sont développés en matériaux composites, donc des matériaux sur lesquels il faut faire des tests non destructifs et sur lesquels les capteurs permettent de vérifier en temps réel, finalement, l'état de la structure et leur permettent de voler dans de bonnes conditions.
Europe 1, la France bouge.
Elisabeth Assayag.
Et bienvenue si vous nous rejoignez. Évidemment qu'elle bouge cette France. Et nous ce soir on a bougé. On a bougé où ? Au salon Global Industrie, au parc des expositions Paris Villepinte. Vous êtes bien sur Europe 1. C'est un peu le pendant du salon de l'agriculture, mais pour les industries françaises. Et ce soir c'est notre grand tour avec les chambres de commerce et d'industrie. On voit notamment dans le secteur de l'aéronautique comment cette filière est-elle en train de se réindustrialiser. Et je peux vous dire que nous sommes bluffés depuis le début de l'émission.
émission parce qu'on apprend des tas de choses, notamment grâce à vous, notre invité, l'un de nos invités, David Ziegler, vice-président du département industrie, aéronautique et défense de Dassault Systèmes. Nous sommes avec le coach de ce soir, l'excellent coach qui est Alain Di Crescenzo, président de CCI France. Et nous sommes avec Clara Léger qui va nous parler dans un instant de cette réindustrialisation aussi au niveau de la place des femmes, notamment dans l'aéronautique. Et nous sommes avec Ousmane Seck, le cofondateur de Monixo. Monixo, c'est la start-up de ce soir. Monixo permet, je résume hein, vraiment, de prédire, de simplifier, d'anticiper tout le secteur de la maintenance des avions, notamment des avions. C'est pas que pour l'aéronautique, mais notamment, là on parle des avions ce soir, donc des avions. En gros, si j'ai bien compris, quand un avion tombe en panne, les conséquences économiques au-delà de le réparer sont assez lourdes. Donc vous, vous avez souhaité anticiper toutes ces pannes avec votre technologie de prédiction.
Voilà, c'est ça, la demande.
J'ai essayé de résumer.
Oui, c'est la demande d'Airbus, principalement, c'est eux qui étaient moteurs sur le projet.
Ouais.
Il faut comprendre aussi que l'aéronautique, au final, est un secteur qui se marie bien avec l'innovation. Le mariage est parfait, on va dire. Mais sur ce cas particulier, il faut comprendre qu'on travaille sur un composant des réacteurs d'avion. Et pour schématiser un peu, l'objectif, c'est que lorsqu'un avion atterrit à Dakar ou à Dubaï, peu importe, que les réacteurs de l'avion puissent fournir un auto-diagnostic aux techniciens sur le terrain et leur donner les clés pour optimiser le réacteur.
Et que ça aille plus vite.
Et que ça aille plus vite.
Donc là, encore une fois, on est sur de l'intelligence artificielle en complément, en aide avec l'humain et non pas à la place d'eux.
Exactement.
C'est important de le rappeler aussi, hein, Alain Di Crescenzo.
Bien sûr, donc l'intelligence artificielle, c'est une véritable rupture, c'est sans doute les plus grandes ruptures qu'on aura dans le futur.
On est dans une révolution.
Mais quelque part, s'il n'y a pas des personnes pour juger entre les différents résultats de l'intelligence artificielle, ça ne va pas marcher. Et donc ça devient, c'est une aide. Évidemment, ça fait faire des économies, ça fait faire de la productivité, mais à un moment donné, il faudra décider, et sur des sujets aussi sensibles qu'un réacteur d'avion, l'homme est très important. Alors attention, ce n'est pas pour le faire accélérer le réacteur, hein. C'est pour faire accélérer la détection d'une panne et une réparation.
Et donc une réparation rapide.
Rapide.
Aussi.
Voilà, pour ne pas clouer un avion au sol, et effectivement, un avion qui ne vole pas, ça coûte très cher.
Comment pouvons-nous aider, même s'ils sont déjà bien implantés, hein, Ousmane Seck avec son entreprise Monixo, il a des besoins, il a besoin de plus, d'avoir plus de clients, c'est normal, hein, c'est le principe d'une entreprise. Il a besoin de recruter, d'acquérir des nouveaux brevets. Quels conseils pouvez-vous lui donner, Alain Di Crescenzo, mais aussi vous, David Ziegler?
Alors, Alain. Sur le recrutement, donc, on faisait un point ensemble. Donc, il a besoin globalement de faire plus 50%. Vous êtes 16 personnes dans la boutique et il cherche entre 7 et 8 personnes. Et avec des profils plutôt ingénieurs, mais aussi recherche. Alors donc, la recommandation, si vous voulez, c'est bien sûr de faire appel à tous les écosystèmes qui existent. Et puis, tu auras la chambre de commerce de l'Haute-Garonne, que je connais bien, puisque je l'ai présidé pendant quelques années. Et donc là, il y a un tas de jobs et de promotions de jobs que l'on peut faire, de façon à ce que, quelque part, tu puisses trouver les talents dont tu as besoin. La recommandation pour la recherche, c'est, je crois qu'on peut toujours vouloir faire tout seul. Mais moi, ce que je recommande, c'est de passer des partenariats avec les centres de recherche. Il y en a de super sympas à l'INSA de Toulouse. Il y en a aussi l'université Paul Sabatier à Toulouse, a aussi des centres de recherche. Je crois qu'avoir un thésard qui bosse avec toi,
ah oui, peut te donc permettre... s'associer avec voilà,
un labo
idée,
de recherche.
Ça, vous y avez pensé?
Nous, on travaille déjà avec le CNRS, okay. Le CETIM, par exemple.
Voilà, ça peut te permettre, ouais. Puisque c'est un ticket modéré par rapport à l'embauche d'un chercheur, ça peut te permettre de faire la connaissance d'un chercheur, de travailler pendant 2 ou 3 ans avec lui ou avec elle, et ensuite de pouvoir l'embaucher. Ça, c'est le point numéro un. Ensuite, sur les entreprises à convaincre et faire en sorte qu'ils puissent être plus connus, ben ça, c'est notre métier de tous les jours. Donc, il va venir.
La CCI peut aider ?
Si tu vas venir, mais on va l'inviter donc, dans l'écosystème des chambres de commerce, puisque tu fais partie des grands clients des chambres de commerce, c'est gratuit d'ailleurs, de façon à ce que tu puisses rentrer dans des clubs qui existent aujourd'hui.
Donc c'est important ce que vous nous dites ce soir, Alain Di Crescenzo, président de CCI France sur Europe 1, ça veut dire que la CCI accueille ces entreprises, ces jeunes entreprises, pour se faire connaître, pour créer du réseau, pour créer du lien.
Les chambres de commerce, c'est la maison de toutes les entreprises de France. 4,5 millions d'entreprises inscrites au registre des commerces et des sociétés. Et donc, on a un service public. On a 4000 personnes qui sont sur le terrain pour faire ce service public aux entreprises. Et donc, on veut le faire savoir et on veut les accompagner.
Donc là, sur la plateforme CCI Business, c'est ça ?
CCI Business, c'est... Là, bravo !
La plateforme d'interconnexion. Je connais à force de faire les délocalisations avec vous, Alain.
CCI Business, c'est dématérialisé, mais on a encore 14 000 personnes chez nous qui vont faire l'accompagnement humain dont on a aussi besoin. Et ensuite, on a un club particulier sur lequel il faut absolument que tu puisses rentrer, c'est le club Stratégie Achat, où là, on fait connaître des solutions à des entreprises. Et sur CCI Business, on a le club des offreurs de solutions dans le domaine des technologies. Et donc, il y a 1900 solutions identifiées. On va faire en sorte que tu sois identifié pour que tout donneur d'ordre qui a besoin d'une technologie, selon ton cahier des charges, puisse frapper à ta porte et regarder comment tu peux travailler. Tout ça passe aussi par un business plan quand même. Bon, ça, c'est mon côté un peu finance.
Un peu entrepreneur aussi, parce que vous êtes entrepreneur. Vous êtes entrepreneur.
Tu vas embaucher, tu vas te développer, tu vas avoir des clients. N'oublie pas de bien gérer tes finances et ton business plan, parce que tu vas sans doute avoir besoin de fonds. Et donc, on est aussi là-dessus, on peut aider à trouver du financement public-privé.
C'est bien compris.
Très bien.
Les bons conseils d'Alain Ducrescenzo. David Ziegler, vous êtes le vice-président du département industrie aéronautique et défense. On n'a pas parlé de la défense au sein d'Assosystem. On est sur la réindustrialisation de l'aéronautique ce soir sur Europe 1. Mais tout de même, moi, cette partie défense m'intéresse au vu de la situation géopolitique. Est-ce que ça signifie que même pour le matériel nécessaire, pour matériel de défense, disons les mots, est-ce que là aussi vous utilisez les jumeaux numériques ?
Bien sûr.
Moi, ça me sidère.
Alors aujourd'hui,
c'est extraordinaire. C'est vrai que les obus, par exemple, c'est sur des jumeaux numériques.
Bien sûr, mais pensons aussi aux choses plus complexes qu'un obus, puisque finalement un obus est quelque chose d'assez simple. Mais les avions de combat sont probablement les avions les plus complexes à produire. On parle demain d'avions de combat qui seront des avions de combat collaboratifs, qui auront besoin pour assurer la souveraineté de la France et de l'Europe de travailler en combinaison avec des drones, par exemple, avec des systèmes terrestres, avec des satellites pour la communication. Ça demande donc une complexité de l'organisation de systèmes auxquels le jumeau virtuel
va apporter la réponse et la solution. Est-ce que vous avez des besoins plus importants depuis, par exemple, la guerre, le conflit ukrainien ? Est-ce que vous, du côté de chez Dassault Systèmes, vous constatez une plus forte demande le mot n'est peut-être bon, pas modélisation, mais de création de jumeaux numériques en termes d'armes, d'avions militaires, d'avions de combat ?
Alors, c'est le cas effectivement, tout simplement parce qu'il y a un grand nombre de programmes militaires qui ont été lancés. Il y a un porte-avions de nouvelle génération, il y a en Europe le FCAS, le Future Combat Air System, qui est l'avion du futur, l'avion du système de combat collaboratif du futur. Il y a les tanks de nouvelle génération qui sont lancés avec Nexter.
Donc tout ça se prépare sur les logiciels de Dassault Systèmes.
Effectivement.
C'est incroyable. Et donc, ça veut dire que ça va permettre, votre technologie va permettre d'augmenter la cadence pour pouvoir répondre aux besoins ?
Exactement. Réduire les temps de cycle, permettre à ces avions, finalement, de répondre à ces besoins de souveraineté. Et au-delà de tout ça, les prochains systèmes de combat seront développés non seulement sur des logiciels, mais seront développés dans des logiciels dans le cloud. Donc il y a un autre enjeu par rapport à ça, c'est vraiment la souveraineté des données et l'hébergement des données. Et Dassault Systèmes, à travers sa filiale Outscale, se pose bien entendu comme opérateur de cloud souverain. Il faut savoir que le prochain avion le prochain chasseur européen, le FCAS, sera développé complètement sur le cloud souverain.
La cadence doit être multipliée par combien ? Les besoins sont plus nombreux de combien par rapport à il y a 3-4 ans ?
Alors ça dépend,
en termes de matériel de défense.
Ça dépend des industriels, mais si on parle par exemple de production de munitions, on est sur une multiplication par 2 ou par 3 des cadences de production en France. C'est la réindustrialisation qui se passe en France, en particulier sur les obus, sur les poudres, mais sur tous les systèmes qui vont avec.
Donc on est aussi dans une réindustrialisation militaire, Alain Ducrescenzo, patron de CCI France.
Alors je voulais revenir là-dessus sur réindustrialisation. C'est vrai qu'on parle de réindustrialisation de la France, c'est global. Si je vois l'aéronautique et le spatial, on est très industrialisé. Alors, il n'y a pas un enjeu de réindustrialisation sur ces domaines-là. On a des enjeux de montée en cadence, et tu l'as expliqué.
Et c'est ce qu'on fait.
Et on a des enjeux de verdissement. Alors, sur des éléments peut-être plus pacifiques, que ce soit des avions commerciaux.
Mais il faut en parler, parce que cette souveraineté militaire, on en a besoin aussi.
Sur les avions commerciaux, sachez que entre la période Covid et aujourd'hui, 2020, 2024, 2025, les cadences sur un avion comme l'A320, c'est x2. Voilà.
Là aussi
si vous
les besoins sont
sur
immenses.
Des outils commerciaux, c'est immense.
C'est immense. Vous nous disiez tout à l'heure, à lundi crescenzo, il y a une carence pour les techniciens. Il y a une carence pour l'emploi, pour cette réindustrialisation ô combien nécessaire. Cette carence ne vient-elle pas du manque de femmes dans cette industrie, à lundi crescenzo?
Vous savez, ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps sur elle, c'est que la femme est l'avenir de l'industrie. Et je le pense.
Elle est l'avenir de plein de choses.
Oui, mais alors j'étais dans l'industrie, Elisabeth. Et donc, si on regarde aujourd'hui, 25% de femmes dans l'industrie. Si on regarde même les femmes chefs d'entreprise au niveau industriel, il y en a une pour 50 hommes. Si on équilibrait un tout petit peu, ça satisferait tous les besoins que nous avons, que ce soit du point de vue de technicien ou du point de vue d'ingénieur. Et donc il faut absolument aujourd'hui qu'on arrive via deux éléments importants. L'orientation, mais ça c'est du moyen-long terme. Mais surtout sur la reconversion, et je crois que vous l'avez cité, faire en sorte que les femmes appréhendent mieux ce qu'est l'industrie, de façon à ce qu'on puisse les réorienter vers ces métiers qui sont durables, qui sont digitaux, qui sont propres, et qui embauchent et qui payent bien, je le redis.
Mais oui, et c'est pour ça que nous sommes ici ce soir sur Europe 1, avec le CCI France à Global Industrie. Clara Léger, vous nous disiez, donc 24% des emplois de la filière aéronautique, on revient sur cette filière aéronautique, sont occupés par des femmes, mais ça évolue quand même,
oui,
gentiment.
Ça évolue doucement, mais sûrement. Elles étaient 18% il y a quelques années, donc ça augmente petit à petit. Dans les métiers plus techniques de l'aéronautique, comme les opérateurs, les techniciens, le chiffre tombe même à 16% de femmes, puisque dans l'esprit collectif, l'aéronautique, c'est un secteur d'hommes qu'on imagine parfois peut-être un peu pénible.
Mais on a démontré ce soir que ce n'était pas forcément le cas.
Les principaux acteurs du secteur souhaitent mettre évidemment un coup de boost, comme par exemple Airbus. Ça passe entre autres par la féminisation déjà dans les écoles d'ingénieurs, on le disait, dans les formations techniques, dans les formations spécifiques.
Il y a beaucoup de femmes chez Dassault Systèmes, à David Ziegler?
Alors, je n'ai plus les chiffres en tête, mais on est au-delà des 15%
des 25%.
Ou des 18% qui sont annoncés. Oui.
Okay. Il y a aussi des nombreuses campagnes de sensibilisation qui ont lieu, notamment dans les collèges, les lycées, pour faire découvrir aux jeunes filles les débouchés professionnels.
Il faudrait qu'elles viennent à Global
de cette industrie.
Hein. Elles sont venues, j'espère.
Ouais, elles sont venues.
Elles sont venues, et notamment, si on se réfère à l'histoire de l'aéronautique et de l'aviation, la première personne qui a traversé l'Atlantique en avion, c'était une femme.
Bah voilà.
La première femme qui a obtenu un brevet de pilote en 1910, elle était française.
Raymond Delaroche.
Exactement.
Et bien alors, est-ce qu'il y a des actions là, qui sont mises en place, Clara, pour donner plus de place aux femmes dans l'industrie?
Alors,
de manière plus globale, on sort de l'aéronautique.
Oui, le gouvernement a créé le collectif industriel, avec une apostrophe et L au pluriel, qui mobilise les acteurs de l'industrie pour agir en faveur de la mixité. Ça passe notamment par un groupe sur le réseau social LinkedIn, des femmes ambassadrices qui donnent des conférences sur le sujet, des activités de mentorat. Et dans ce collectif, vous retrouvez notamment toutes les organisations, les associations, les initiatives comme par exemple Elle Bouge, Femme Intérieure, My Job Glasses, il y en a vraiment énormément.
Bon, bah ça va, on avance quand même. Hein.
Oui.
Vous en avez vu beaucoup? Là, vous êtes resté les 3 jours à lundi crescenzo, président de CFI France.
J'en ai vu beaucoup, puisque effectivement, je suis resté 3 jours sur le salon.
Il y en a c'est bien, c'est positif, c'est encourageant.
Oui. Laissez-moi vous citer d'autres initiatives. Il y en a une il n'y a pas longtemps, c'était les 101 femmes de Matignon. Donc nous avons eu 101 femmes, une femme par département qui a été sélectionnée, qui a été reçue par le Premier ministre. Et il y avait de nombreuses entreprises industrielles. Je voudrais vous citer aussi les CCIO féminins pour lesquels nous travaillons, si vous voulez, et avec un déploiement particulier dans l'industrie. Je vais aussi vous citer Booster au féminin, donc qui permet de faire en sorte que 80% des femmes ont envie d'être chef d'entreprise ou d'aller dans l'entrepreneuriat et dans l'industrie. Et elles s'arrêtent, quoi. Elles ont cette timidité.
Et bientôt, ce ne sera même plus un sujet.
Voilà, et ce n'est pas un sujet.
Non,
on essaie de les encourager.
Et
voilà, il y a des initiatives partout. Et notamment, ça commence au collège et dans les stages en entreprise. Et sachez que de notre côté, on fait des mini-stages en entreprise. Quand j'ai commencé il y a 2 ans, on en faisait 10 000. On en est à plus de 50 000 chaque année. Et il y a de jeunes filles qui suivent ces stages dans les entreprises.
Et cela peut susciter des vocations dans cette très belle filière, dans cette filière de l'industrie. C'est déjà la fin de La France Bouge, ça passe tout trop vite.
Non.
Mais si, mais vous serez là à Bayonne pour notre prochaine...
Bien sûr.
Ah, heureusement.
Déjà tout réservé.
Formidable. C'était notre grand tour. On continue notre grand tour avec les chambres de commerce et d'industrie. Merci à CCI France de nous avoir accueillis sur son superbe stand ici au sein du salon Global Industrie.
à Villepinte. Merci à nos précieux invités, à David Ziegler, vice-président du département industrie aéronautique et défense au sein de Dassault Systèmes. Merci d'avoir été aussi clair. On a appris beaucoup de choses grâce à vous ce soir. Et merci pour cette réindustrialisation dont la France a tant besoin. Et on est bien en plus, on peut être fiers de nous. Merci à Ousmane Seck, merci d'être venu ce soir, cofondateur de Monixo. Bravo.
Merci.
Non, c'est vrai, bravo. Bravo pour ce que vous faites, bravo de faire avancer la société. Clara Léger, on se retrouve lundi pour une prochaine France Bouge. On parlera de Pâques, puisque c'est lundi de Pâques.
Bien sûr,
chocolat. Merci à Antoine Fenech pour la préparation de l'émission. Merci à Christophe Pierrot depuis Paris, à nos équipes techniques ici présentes.
Europe 1.
La France Bouge. 20h, 21h. Elisabeth Assayag.